Alors là, je suis à la librairie Transit et nous sommes le 18 octobre 2025 et je suis en face de...
Kenza Seyfrioui.
Et de...
Annelise Verdier.
Alors l'une est bédéiste et l'autre est éditrice, mais éditrice dans un pays qu'on appelle le Maroc et qui est en visite ici à Marseille pour une présentation ce soir à la librairie Transit. Alors ce livre, c'est pas n'importe quel livre, c'est une BD qui parle d'un thème bien particulier. Je commence par toi.
Alors c'est une BD que Annelise nous fait l'honneur d'avoir adaptée de l'enquête de Shadia Arab, géographe et chercheuse au CNRS sur les travailleuses saisonnières marocaines qui vont cueillir les fraises dans les serres en Andalousie, dans le cadre de contrats dits en origine, qui sont des contrats mis en place par l'Union européenne en accord avec l'Agence pour l'emploi au Maroc, et qui, dans les faits, recrutent en priorité et exclusivement des femmes d'une extrême précarité, analphabètes, pauvres, souvent veuves ou mères célibataires ou dans une situation de marginalité considérable, avec en prime le fait qu'elles aient des enfants en bas âge pour que l'Union européenne ait la joie de les voir repartir. C'est un travail que Shadia Arab mène depuis une quinzaine d'années et l'adaptation qu'a faite Annelise a permis de réactualiser le travail d'enquête et de vous donner des précisions plus actuelles sur ce qui se passe aujourd'hui.
Merci. Alors Annelise, est-ce que tu peux me dire cette aventure autour de la BD, qu'est-ce qui a fait que tu as été intéressée?
Ben moi, je suis venue à ce thème en fait par la Via Campesina, qui est une organisation internationale qui s'occupe du droit des paysans dans le monde entier, qui réunit un certain nombre de syndicats, dont la Confédération paysanne en France. Et en fait, à l'époque, donc c'était en 2019, ils m'avaient demandé d'illustrer un cas de solidarité entre des travailleurs migrants saisonniers et un syndicat local. Et donc j'avais appris qu'en 2018, ces dames marocaines donc, qui font ce qu'on appelle la migration circulaire, donc qui partent tous les ans laissant leurs enfants pour aller travailler en Espagne, avaient été victimes de leurs employeurs, elles avaient été victimes de viols, donc certaines ont porté plainte et ne pouvaient plus rentrer au Maroc, bien entendu, après avoir porté plainte pour ce motif, en sachant qu'au Maroc, ça allait se passer mal pour elles. Et de toute façon, une fois avoir porté plainte en Espagne, elles ne pourraient pas revenir travailler en Espagne. Donc le syndicat les avait extraits des entreprises et les avait aidés à voir aboutir leur plainte. Donc moi, j'avais fait un premier travail BD sur ce thème-là, sur le thème des saisonnières. Et j'avais repris ce travail après pour une revue donc, qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelle la Revue Gibraltar. Et ensuite, j'ai rencontré Simona Gabrielli des éditions Alif Bata, qui m'a proposé donc d'adapter le livre de Shadia Arab, puisqu'elle connaissait Kenza des éditions Toutes Lettres.
On peut avoir la référence du livre de Shadia Arab?
Il porte le même titre que la BD, donc c'est Dame de fraise, doigt de fée.
Et c'est une édition d'un livre documenté, c'est un livre documenté en fait.
Bah, c'est une grande enquête qu'a faite Shadia sur le terrain, avec des portraits, avec des interviews, et elle a synthétisé tout ça dans un travail où il y a une forte analyse, où elle apporte aussi tous les éclairages de la théorie féministe, des travaux qui ont été faits sur l'émigration, sur la migration féminine, sur la migration de survie, un contexte juridique aussi sur la nature des contrats mis en place par l'Union européenne et l'ANAPEC. Enfin bon, tout un fond théorique en fait qui vient éclairer ce travail de rencontre avec les personnes concernées et la mise en avant de leur voix.
Alors là, ce que je suis en train de me dire, c'est que les simples fraises qu'on achète nous en France et qui viennent d'Espagne, ça a une histoire. Et qu'est-ce qui fait que vous voulez rendre visible ce genre de choses, ce travail autour de la fraise? Parce qu'on parle de la fraise, là.
Elles ont le goût de l'esclavage.
C'est un mot fort que de dire ça.
Oui, c'est un mot fort parce que il y a une frontière, il me semble, très ténue entre l'esclavage au sens juridique et aussi les conditions infernales qu'on fait aux gens, y compris dans le cadre d'un travail salarié, soi-disant encadré par un contrat. Et quand il y a plein de manquements en termes de respect des clauses du contrat, ne serait-ce que faire signer des contrats dans une langue que aucune de ces femmes ne maîtrise, des contrats écrits sans que personne ne vienne leur expliquer quelles sont les clauses des contrats, quand elles doivent s'endetter pour acheter le matériel avec lequel elles vont travailler, qui ne leur est pas mis à disposition, quand elles sont contraintes d'abandonner leurs enfants pendant plusieurs mois et plusieurs années de suite pour aller travailler pour des sommes misérables, quand elles sont contraintes à partager collectivement des logements minables qu'on n'oserait proposer à personne. Je vois vraiment pas en quoi ces conditions de travail peuvent rentrer dans la conception d'un travail digne. Et l'Union européenne cautionne ça.
On est en plein cœur de l'exploitation des corps des femmes autour du thème du travail et de la récolte des fraises, en fait.
J'aimerais ajouter aussi que Anne-Lise a apporté une touche très importante qui était en filigrane peut-être dans le travail de Shadia, mais il me semble qu'elle ne l'avait pas suffisamment développée. C'est le fait qu'on exige des femmes qu'elles travaillent sans gants pour ne pas, soi-disant, abîmer le fruit. Or, ce sont des fraises qui, dans une conception d'exploitation intensive, sont cultivées toute l'année avec l'usage de très intensif de produits profondément dangereux. Donc il y a quelque chose qu'on va voir arriver peut-être dans pas très longtemps, c'est les maladies liées à l'exposition à ces produits toxiques. Est-ce que les fraises que vous avez envie de consommer toute l'année, déjà, est-ce qu'il est légitime de chercher à consommer toute l'année des fraises sans respecter le rythme des saisons? Est-ce que cette lubie peut justifier des conditions de travail pareilles et puis l'exposition de personnes à des produits extrêmement dangereux?
Lise, tu aimerais rebondir par rapport à ça, sachant que toi, tu as été sur le terrain aussi, en plus d'avoir lu le bouquin, l'enquête, tu as aussi été plusieurs fois sur place à rencontrer ces dames, ces femmes marocaines, en plein cœur de l'exploitation des fraises. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, alors ben, moi, mon travail s'est fait en deux temps, parce que je suis allée au Maroc rencontrer donc, des dames de fraises. Qui m'ont pas mal documenté déjà en me montrant les photos qu'elles avaient prises sur place, etc. Et après, je me suis rendue à Huelba, donc et j'ai eu la chance de tomber à un moment où justement il y avait une rencontre avec la Villa Campesina et avec pas mal d'acteurs voilà du secteur syndical de ce domaine. Et du coup, j'ai pu rencontrer aussi sur place en direct des dames qui sont venues au syndicat. Nous rencontrer, parler avec les gens sur place, montrer aussi leurs conditions.
Et tout ça de manière cachée, j'imagine, parce que se rendre visible, ne pas se faire reconnaître, je pense que ça doit être un point important, non ?
Absolument. Bah, en fait, je sais que j'avais fait pas mal de croquis sur place, par exemple, que je n'ai pas partagé sur les réseaux sociaux, parce que c'était absolument exclu qu'on puisse reconnaître des femmes comme étant venues jusqu'au syndicat. Il fallait déjà un certain courage pour arriver jusque-là, pour... Bah, la raison du témoignage caché, je pense, c'est que bah, depuis l'affaire de 2018 dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même une grande méfiance vis-à-vis de l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pu rentrer moi dans les entreprises, parce que les entreprises sont très fermées. Ouais, il y a des systèmes de sécurité partout, il y a des vigiles, il y a des épaisseurs de grille, c'est des frontières en fait qu'on voit pratiquement hein, entre l'espace public et l'espace des entreprises.
En Espagne, tout ça.
En Espagne, oui, bien sûr, en Andalousie. Et donc, je pense que les employeurs sont très méfiants et veulent surtout pas qu'il y ait de témoignages de l'intérieur. Donc, pour les femmes, déjà, faut se rendre compte que se déplacer dans un pays qu'on connaît pas, dans un secteur où il y a pas vraiment de transport en commun, donc beaucoup de femmes font du stop en fait pour sortir des entreprises, aller faire leurs courses, etc. Il y a certaines entreprises qui s'occupent un peu de les conduire en voiture pour faire leurs courses ou autres, mais en général, il faut qu'elles se débrouillent, y compris parfois pour aller voir un médecin. Enfin, et tout ça, c'est des choses que j'ai moi constaté sur place, quoi. Je suis allée en voiture enquêter un peu dans un petit village. J'ai pris en stop une femme sur le bord de la route qui devait aller chez le médecin pour son œil, qui était abîmé. Et voilà, l'employeur ne va pas se charger de ça. Elles doivent se débrouiller, quoi. Donc, aller voir un syndicat, c'est quand même sous-entendu qu'on a quelque chose à réclamer ou quelque chose ne se passe pas de façon optimum. Et c'est bien évident que ça ne va pas plaire à l'employeur. Donc, on ne va pas se montrer quand on est ouvrière comme celle qui va avoir un syndicat en général. Il y a toujours ce risque, enfin en particulier dans l'affaire de 2018, très clairement, il y a des femmes qui se sont échappées des entreprises pour porter plainte. C'est-à-dire que les employeurs ont su ce qui se passait, ils ont appelé les bus, ils ont affrété les bus pour le retour au Maroc, ils ont mis les femmes dedans, terminé quoi. Juste pour pas qu'elles parlent quoi, parce qu'ils savaient qu'elles allaient porter plainte. Donc ils ont renvoyé tout le monde et puis comme ça l'affaire a été faite.
Qu'est-ce qu'elle revendique précisément en fait ?
Alors, il y a énormément d'abus. Donc, 2018, il y a eu des affaires de viol, mais il n'y a pas eu que ça. C'est-à-dire, ça va des logements qui sont complètement pourris, où on ne mettrait pas un chien. Ça va au, il y a beaucoup d'affaires autour d'heures qui ne sont pas payées. C'est-à-dire qu'il y a des heures qui ne sont pas payées comme elles le devraient, notamment en fin de saison, où en fait, ça peut arriver que l'employeur adopte un mode de paiement à la pièce, quoi, avec un rendement au kilo au lieu de payer à l'heure. Donc, du coup, ça met une espèce de pression. Et puis, les femmes, quand elles sont sur place, par exemple, elles vont payer pour la location du logement, pour le matériel sur place, etc. Donc, tout ça leur est déduit de leur salaire. Donc, il y a beaucoup de bricolages comme ça, en fait, qui font que le droit du travail n'est pas respecté et que ça les met dans des situations compliquées. Qui font que parfois elles peuvent effectivement en arriver à joindre un syndicat et à réclamer pour leurs droits. Mais c'est pas du tout évident.
Toi, Kenza, tu es éditrice en Maroc. Ce livre va apparaître aussi bien en France qu'au Maroc. Et pourquoi cette démarche déjà de faire le choix d'éditer un livre, une BD de ce genre qui traite de ce sujet ? Et comment est-ce que ce genre de sujet peut être accueilli au Maroc ? Comment est-ce que vous l'avez pressenti ?
C'est une maison d'édition qui s'est fondée pour continuer l'enquête journalistique qu'on a de plus en plus du mal à faire vu la régression de la liberté d'expression. Mais ça, c'est pas nouveau. En 2010, Hicham Houdaïfa et moi-même... on a vu la censure du journal hebdomadaire où on travaillait, moi dans la rubrique culture et lui dans la rubrique société. Et donc il avait été un des premiers à écrire sur la situation des dames de fraises. Ensuite, en tant qu'éditeur, on a le cœur de notre projet, c'est la collection Enquête. Donc c'est vraiment dédié à l'investigation sur des sujets beaucoup liés aux droits des femmes, aux droits des enfants, à l'environnement, etc. Et quand Shadia nous a proposé ce livre, pour nous ça faisait complètement sens. Et on l'a vraiment porté. Notre projet, c'est aussi de défendre une parole à partir du Sud. On considère qu'on a des compétences au Maroc qui peuvent tout à fait produire un savoir sur notre société et porter ces connaissances au-devant du public pour alimenter le débat public. Donc on tenait à défendre cette cause. Et ce livre qui est sorti en 2018 a eu un succès énorme parce qu'il a été immédiatement traduit en espagnol et en italien. Il vient ensuite, on l'a réédité et on l'a actualisé en 2023, donc c'est la deuxième édition. Et il vient d'être traduit en arabe et il y avait ce projet de BD qui vient de voir le jour après plusieurs années d'enquête complémentaire, de travail, parce que faire des dessins, j'imagine que c'est assez long. Pour nous, ça fait pleinement sens de le faire en coédition parce que on a aussi un enjeu de ramener nos concitoyens au livre et que des formes plus nourries par l'image peuvent être aussi des biais pour faire venir des gens vers un travail, ils iraient peut-être pas directement vers un travail académique. Enfin, ce que le succès de ce livre livre a démenti, en fait, finalement. Mais on peut toucher au-delà de notre lectorat habituel, de la même manière que là, par exemple, sur un livre sur la question des migrations, on a développé la formule du podcast pour faire des enquêtes complémentaires, impliquer plus les acteurs de la société civile pour apporter des éclairages en plus, actualiser aussi ce qui est figé à un moment dans un livre et qu'on ne peut pas réactualiser dans l'immédiat. Donc, pour nous, c'est aussi des pistes dans le sens de cet engagement pour ramener le livre au cœur de la société marocaine et donc du débat public.
Vous avez vraiment essayé de viser plein de monde avec ces différentes propositions. Et les femmes, alors, les femmes des fraises, comme vous dites, alors elles, comment elles ont accueilli ce travail-là? En fait, l'enquête, c'est une chose, mais la BD aussi.
Oui, alors là, moi, j'ai pas vraiment d'écho, si tu veux, de savoir si ces femmes ont un accès à cette publication, quoi. C'est pas quelque chose de très évident. Après, moi, j'en ai parlé évidemment aux personnes qui m'ont aidée pour faire le bouquin. Donc, j'ai rencontré une dame là-bas qui m'a bien aidée pour avoir des images de l'intérieur de l'entreprise. Donc, elle sait que le bouquin est sorti. Elle était plutôt contente. Les personnalités marocaines qui étaient au syndicat, hein, qui ont aidé, elles étaient contentes aussi que ça sorte et que ces voix-là trouvent un écho quelque part, quoi.
Oui, tu as eu une relation de complicité avec ces femmes qui travaillaient dans l'usine.
Bah, pas toutes, parce que c'était pas forcément possible. Moi, je suis pas arabophone, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, j'ai rencontré une dame. On s'est débrouillé avec l'espagnol, parce qu'en fait, elle s'est installée là-bas il y a 2 ans, et enfin un peu plus maintenant. Et donc, elle a appris. Enfin, franchement, moi, ce genre de parcours, ça me bluffe, quoi. Je l'ai rencontrée en bidonville et elle voulait faire venir sa fille. Hein. Et en fait, elle a appris à parler espagnol avec les applis du smartphone, quoi. Et elle parlait couramment. Enfin, elle parlait assez couramment espagnol, donc on a pu discuter en espagnol. Et après, elle m'a envoyé des images de fou là pour que je puisse dessiner où on voit les femmes qui travaillent de nuit, et puis il y avait Soumia aussi qui était embauchée par le syndicat, qui est une ancienne dame de fraise, mais qui s'est fait embaucher pendant plus de 2 ans par le syndicat. Bon, elle est partie maintenant parce qu'on avait un peu marre de faire la politique. Elle a dit je suis pas venue pour ça. Mais ça a été une grande aide, quoi. Enfin, elle a vraiment pu faire du lien voilà, entre les dames qui parlent arabe et le syndicat où ils parlent juste espagnol, quoi. Et ça a été une aide aussi de pouvoir discuter avec elle, qu'elle m'envoie des images de l'intérieur des entreprises.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent sur la BD et l'envie de leur proposer d'aller voir, de le lire ou de l'acheter? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Parce que c'est un travail qui est assez conséquent, sur plusieurs années de toute façon, mais aussi conséquent à travers la BD, enfin tout ce que tu as mis en avant. Je veux dire, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour proposer cette lecture?
Pour proposer cette lecture, alors j'ai envie de leur dire de soutenir un peu la petite édition aussi, c'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir une très grande diversité éditoriale. C'est quelque chose de magnifique. Enfin voilà, le travail que fait Alif Bata aussi pour faire connaître des auteurs arabes ou du monde arabe, ils existent en fait. Et on a tendance à, voilà, en dehors de quelques exceptions de temps en temps, de gens qui font un carton au niveau éditorial dont on entend beaucoup parler. Il y a aussi des auteurs qui vivent sur place, qui existent et qu'il est bon de faire connaître. Après, par rapport à ce livre spécifiquement, je pense que c'est toujours intéressant de savoir, de faire du lien entre les choses, de savoir qu'est-ce qu'on mange, comment c'est fabriqué, par qui ramasse, etc. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui mangent des fraises au mois de février, là, qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il y a derrière. Mais en toute bonne foi, enfin, les gens n'ont pas forcément cette curiosité de s'intéresser à savoir d'où viennent d'où viennent les produits qu'ils consomment. Et malheureusement, on est souvent un peu dans ce système de consommation où presque on a l'impression que ça ne nous regarde pas. Ce qu'on met dans nos assiettes, voilà, c'est fabriqué quelque part, on ne sait pas par qui, ça vient jusqu'à nous, c'est pas cher. Et comme on a de moins en moins de moyens, bah, on va plutôt se diriger vers ce qui n'est pas cher. Mais c'est important des fois de remonter à la chaîne. Moi, quand je suis partie en Espagne, 2 jours avant, j'étais sur le marché le moins cher de Toulouse, là, sur le marché des boulevards à Toulouse. Et il y avait les fraises de Huelva. Et 2 jours après, j'étais en voiture au milieu des serres à retrouver voilà, d'où elles venaient. J'ai retrouvé la même étiquette et tout. J'étais assez, assez contente de ça, d'aller à la source, de voir d'où ça venait et de comprendre les chemins qu'elles font, ces fraises, pour aller jusqu'à nous. Et tout ce qu'il y a comme souffrance derrière, comme histoire derrière, pour qu'on puisse avoir sur le marché des fraises sous plastoc à 2 euros la barquette, quoi.
Mais je voulais saluer déjà l'engagement d'Anne-Lise qui a apporté tout son talent. C'est pas juste une adaptation, elle y a mis vraiment toute sa recherche, toute sa sensibilité militante, et vraiment je la remercie d'avoir apporté son grain de sel.
Il y a un vrai travail de terrain.
Ouais, parce qu'on est tous des passeurs en fait. Ce qu'on fait pour ce boulot, c'est essayer d'attirer l'attention des gens, comme Anne-Lise vient de le dire, sur le fait qu'il suffit pas d'être juste des consommateurs. Avec ce livre de Shadia, il y a eu une session au Parlement européen quand même qui a été dédiée à la question, et Shadia a été appelée pour témoigner. On a eu aussi la possibilité de poser une question à l'Assemblée nationale. Il y a un avocat qui a gagné un prix de plaidoirie et qui s'était engagé, j'espère qu'il l'a fait, à remettre la dotation de ce prix de plaidoirie pour la défense, pour le comité de défense des femmes qui avaient porté plainte en Espagne. Donc voilà, il y a aussi la nécessité, c'est pas juste une publication, c'est un point dans le dossier, dans le plaidoyer, dans la démarche de plaidoyer, pour que les gens prennent conscience qu'il n'est pas acceptable de faire travailler des personnes dans ces conditions-là. Voilà.
Et alors j'ai 2 questions pour terminer. Ces femmes-là, elles viennent d'où et quel visage du Maroc elles portent ?
Elles viennent d'un peu partout au Maroc. Alors Shadia, qui est originaire de la région de Beni Mellal, avait pas mal orienté son enquête dans ce coin, mais il y a des personnes qui viennent d'un peu tout le Maroc en fait. Du moment qu'elles soient pauvres et avec des enfants qui ne sont pas encore en âge de travailler.
C'est ce que tu disais au début de l'entretien.
Il y a des recrutements qui se font via l'ANAPEC, donc le Pôle emploi marocain, qui se font un petit peu partout à l'échelle du pays.
Okay. Et c'est un contrat entre, comme tu disais, entre le Maroc et l'Europe, en fait.
Il faut savoir que le Maroc fonctionne encore dans son analyse du territoire sur les classifications coloniales entre Maroc utile, sur lequel il y a énormément d'investissements, et Maroc inutile, où alors les facteurs de précarité sont cumulés.
Dans les années 60, le recrutement des travailleurs marocains, c'était des employés, en fait, les Algériens aussi, mais en fait, l'usine Renault, l'usine Peugeot, ils venaient sur place au Maroc, recruter sur place et les amener travailler à l'usine. En fait, c'était des emplois pas saisonniers, mais ils les ont pris un temps pour l'industrie automobile. Ça me rappelle le format du recrutement me rappelle un peu ça, en fait.
Shadia fait le lien ouvertement à la fin de son livre, justement, en disant on a vidé des régions de leurs hommes. Ben là, c'est les femmes, puisque c'est une migration genrée, en fait. Et voilà, c'est les mêmes principes.
Que là, on appelle ça la migration circulaire, puisque le principe, c'est qu'elles vont travailler en Europe et qu'après, elles rentrent. Donc, d'où l'idée de circulaire, puisqu'elles font l'aller-retour entre l'Espagne et le Maroc.
Elles viennent travailler quelques mois, elles retournent au Maroc et ensuite elles reviennent régulièrement et repartent régulièrement.
Chaque année. En Espagne, c'est des contrats entre 3 et 5 mois, quoi.
Et ensuite, 5 mois après ou 6 mois après, elles reviennent. C'est ça le Schmilblick ?
Oui, alors après, je pense que ça dépend un peu des entreprises et du nombre de personnel dont ils ont besoin. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est au moment de la récolte qu'il y a un besoin urgent de personnel nombreux. Mais au moment de la plantation aussi, il y a besoin de mains.
On recrute pas les Espagnols là-bas sur place. Est-ce qu'il y en a des Espagnols? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont chercher les femmes au Maroc parce que c'est peut-être moins cher. Il y a des contrats entre l'Europe et le Maroc, comme tu l'as dit. Mais est-ce qu'on exploite aussi des femmes espagnoles?
Oui, mais assez peu. Traditionnellement, j'ai envie de dire, ça fait un petit moment que des systèmes de population comme ça, migrantes, sont appelées pour bosser. Alors avant, c'était les Roumaines. Il y a eu des Roumaines, des Bulgares. D'ailleurs, maintenant, la Roumanie a compris le truc. C'est-à-dire qu'ils ont importé la culture des fraises en Roumanie et ils font le boulot direct sur place. Ils ont repris les techniques de monoculture intensive et ils refont la même sur place. Mais il y a encore des Roumaines quand même qui viennent travailler. Et après, les Marocaines, c'est depuis la fin des années 2000 en gros. Donc, Dame de Fraises et Doigts de Fée, Annelise Verdier, Shadia Arabe, les autrices, et c'est aux éditions Alif Bata.
Ici en France, aux éditions Alif Bata, mais ça va être aussi édité au Maroc, je crois.
Exactement,
bien.
Exactement, chez l'imprimeur en ce moment, et ça sera chez En Toutes Lettres au Maroc.
Parfait, je vous remercie les filles, merci Annelise, merci Kenza.
Des tirs à un plein Marseille et des enfants au sol.
Tirs au fusil d'assaut, une arme de type Kalachnikov.
Personne visée avait entre 14 et 16 ans.
La seconde ville de France est la plus meurtrière.
J'entends juste des brides. Ryan Kalash. Et là, t'as ton cœur qui se ferme.
Nous devons regarder en face ce qui se passe. Les enfants meurent dans notre vie.
La première chose qu'on pouvait lire, c'était un jeune de 14 ans, déscolarisé, connu des services de police.
À Marseille, dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est mort. Parle-la,
contre. Chaque semaine, Madame la Première Ministre, je marche dans le sang. Je marche vraiment dans le sang.
Nos gosses meurent gratuitement.
C'est là où ils nous disent elle est en état de mort cérébrale.
Vu le nombre de balles qu'elle avait pris, c'était pas possible.
Ils ont été voir maman, ils m'ont dit « Je suis désolée madame, votre fils il a été pris dans une fusillade. »
On lui a fait la promesse de faire arrêter ces assassins. Ça c'est notre combat.
L'État a une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans nos quartiers.
C'est parce que la justice, on l'a pas, nous classe le dossier.
Au 11 octobre, ça fera 4 ans, on n'a pas avancé dans la justice, t'imagines?
Nous demandons de la considération pour les victimes, de la considération pour les familles, et que la justice nous soit faite. Nous sommes des citoyens à part entière et nous méritons la considération de nos institutions.
C'est un combat à vie maintenant qu'on a pris. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter à part la mort.
Voilà, Étienne Bonneau et Michael Jans présents sur les studios de Radio Galère pour présenter ce film Jusqu'à notre dernier souffle et qui ont donc du coup qui sont les réalisateurs de ce film. Et j'aimerais bien vous demander, Mickey et Étienne, est-ce que vous pourriez vous présenter et aussi dire quelle a été votre démarche jusqu'à avoir eu l'envie de se projeter et de réaliser ce film ensemble. Est-ce que vous pourriez me raconter le démarrage de cette aventure?
Bonjour, donc moi c'est Michael et ce qui s'est passé c'est que tous les Marseillais le savent que ce sujet il est latent depuis des années. On entend parler d'assassinats, mais ce qui se passait, c'est que c'était souvent en périphérie, loin du centre-ville. Et moi, j'entendais ces sujets depuis pas mal d'années. On mettait ça sous le coup du folklore ou de choses qui se passaient à Marseille, mais il est arrivé qu'un soir d'avril 2023, c'est arrivé à quelques mètres de chez moi, que trois jeunes se sont fait rafaler et que deux sont décédés, et dont un qui était anciennement dans le collège de ma fille. Et ça s'est passé dans une rue à côté de chez moi, qui est sur le trajet d'école de ma fille. Et donc là, il y a eu un choc qui s'est produit, qui s'est traduit premièrement par une sorte de léthargie. On ne savait pas quoi faire. On commençait à en discuter avec les parents et on se sentait très très mal. On se sentait choqué et on a mis un peu de temps à proposer et à décider de faire une marche blanche. Et on a réussi à organiser une marche blanche qui s'est déroulée le 3 mai 2023 et qui est partie de la Joliette jusqu'à la mairie du centre. Et pour organiser cette marche blanche, on a contacté un collectif de familles de victimes, principalement des femmes, que moi j'avais aperçu à la télé, qui avait organisé quelques marches assez en petit comité au départ. Et on s'est dit qu'il fallait les contacter, et ces femmes qu'on a rencontrées pour l'organisation de cette marche, elles nous ont hyper aidées. Et moi je me suis rendu compte que c'était des femmes hyper déterminées et qui ne lâchaient pas le bout de gras pour obtenir justice. Et je me suis dit, est-ce que ça serait pas intéressant de suivre leur combat et aussi personnellement de me confronter à ce sujet que je mettais toujours de côté. Et voilà.
Merci. Et toi, Étienne, alors, quelle a été ta démarche par rapport à ce film ?
Bonjour. Alors, moi, ça faisait... En fait, donc, c'est Mickaël qui m'en a parlé après ce qu'il vient de décrire. Il m'a donc proposé... On a discuté d'en faire un film documentaire. Moi, ça faisait quelques mois, à peine un an, que j'étais à Marseille. Où je me suis installé. Je viens pas de Marseille à la base, je viens de Bourgogne, de la campagne, assez loin d'ici, quoi. Et moi, je me suis installé ici et je travaille en tant que... Je suis journaliste. Donc, en fait, au bout de quelques semaines après mon arrivée à Marseille, je suis amené à couvrir ce genre d'affaires, des assassinats, et souvent... Quand on en parle dans les médias, c'est peu de temps après que ça soit arrivé. Donc, dans un délai très court, quoi, c'est assez immédiat. Enfin, voilà, c'est le jeu des médias, des JT. Dans un temps très court aussi, c'est-à-dire que la durée des reportages sont très courtes. Bref, tout ça fait que... Et puis, pour certains médias, vraiment, il y a une volonté éditoriale de faire du trash, de parler des choses qui sont choquantes, enfin de parler de ces affaires sous l'angle du fait divers.
Oui, c'est ça, le fait divers, et puis c'est bouclé.
Et c'est ça, exactement.
Des chiffres,
parfois avec une volonté de faire aussi du sécuritaire derrière.
Oui, de la récupération politique qui va avec.
Tout à fait.
Il est noté que depuis 2013, 300 personnes sont mortes, assassinées dans la région marseillaise. C'est pas un nombre pour un fait divers, hein. Ma question, c'est comment est-ce que vous avez fait votre travail de rencontre avec ces familles-là ? Parce que ça ne doit pas être évident, c'est quand même des familles qui ont une histoire assez lourde par rapport à la perte d'un membre de la famille. Ça peut être un enfant, un frère. Comment vous avez abordé cette question ? Aller à la rencontre de ces personnes-là pour leur proposer de réaliser et de rendre visible leur lutte à travers un film.
Alors, on le dit à chaque projection, c'est que ce film, il a été très difficile pour nous, en fait, pour plein de raisons. Donc la raison aussi qu'a évoqué Étienne, c'est que on partait d'un traitement journalistique de ces affaires et on était mal à l'aise avec ça et on se questionnait à faire autrement. Il y a une autre raison qui est aussi qu'aborder le deuil, c'est pas évident. Et du coup, là, en plus, on n'était pas des personnes concernées. Nous, on n'avait pas perdu de proches. Et aussi, par rapport justement au traitement médiatique, policier, voire après judiciaire, c'est très compliqué, nous, ce qu'on s'est rendu compte, pour les familles, en fait, de pouvoir s'exprimer. Parce que entre le fait que leurs proches, leurs victimes deviennent des chiffres, c'est aussi qu'on étale, enfin, qu'assez vite, on veut étaler un CV, en fait, de la victime. Et souvent, c'est résumé à connu des services de police ou dans le trafic ou dans ça, pour on ne sait pas pourquoi, mais ce qui fait que dans l'opinion publique, ça peut justifier des fois la mort de ces personnes, ce qui crée chez les familles aussi une sorte de, alors des fois de honte, d'isolement quand arrivent ces drames, alors que normalement, c'est à ce moment-là qu'il faudrait qu'elles soient accompagnées et qu'elles puissent aussi peut-être s'exprimer. Et c'est ce qu'on, moi en tout cas, j'ai ressenti avec les parents d'élèves du collège Jean-Claude Izzo de la Joliette, c'est que on a mis du temps à contacter les familles des victimes de la rue Vincent Leblanc, parce que justement, elles ne savaient pas si elles devaient s'exprimer. Il y avait eu déjà des histoires que on disait que leurs victimes étaient dans les trafics. Donc en fait, c'était assez compliqué. Et voilà, nous, donc on a fait beaucoup de versions où on a questionné comment on pouvait traiter ça, et surtout que justement avec Étienne, nous on se connaissait, parce que moi je suis aussi monteur un peu à France 3, et voilà, bon, je laisse Étienne en parler, mais des discussions qu'on a eues aussi un peu...
Non mais en fait je pense que ouais, dans la rencontre elles ont assez vite saisi notre démarche, c'est-à-dire que ça soit Mickaël qui disait bah jusqu'à maintenant en fait je tournais la tête et là je me sens concerné, que ça soit moi qui dise bah, en tant que journaliste je suis pas toujours à l'aise à comment on traite ces affaires là et j'ai besoin de rencontrer les familles concernées, de passer du temps avec elles et pas juste expédier ça et passer à autre chose, à un autre sujet. Et donc oui, il a été compliqué à faire ce film. Par contre, le rapport avec elle, c'est assez rapidement, je pense qu'elles ont compris quelle était notre intention, qui était de passer du temps avec elle, et elles nous ont fait confiance et on leur en remercie pour ça, parce que elles nous ont laissé accéder à des moments de comment elles préparent les marches, elles se sont livrées aussi sur ce qui s'est passé, sur leurs drames, qui sont quand même des choses délicates à évoquer à des gens qu'on connaît pas, qui sont pas des amis, pas des proches, quoi.
Alors en fait, vous avez décidé de faire un film à travers quel fil conducteur? À travers la rencontre de trois personnes, Attika, Karima et Laetitia, à travers le collectif des familles de victimes. Comment est-ce que vous avez décidé d'aborder le fil au fur et à mesure, même si vous dites que c'était complexe, comment est-ce que est arrivé ce cheminement pour construire le film préciser du coup le fil conducteur?
Alors du coup, moi, ce qui m'a tenu, en tout cas, et c'est ce qu'on fait avec l'asso qui a porté ce film, le collectif Nawak, c'était tout d'abord des femmes en lutte. Et ça, c'était important, et ça a été vraiment notre axe qu'on a suivi. Et après, c'était comment on raconte ça et comment on traduit ça, vu qu'elles avaient eu une période où elles étaient assez médiatisées, parce que... Elle poussait en fait pour qu'on les entende, et donc elle passait sur quelques plateaux et tout ça. À un moment, on s'est un peu perdu aussi dans les archives médiatiques de JT et tout ça, et on s'était dit on va peut-être suivre ce qui a déjà été fait. Et là-dessus, on s'est un peu perdu, parce que justement, on savait qu'on voulait traiter autrement les choses, et donc le fil conducteur a été aussi de revenir sur sur l'humanité de ces gens, de savoir qui elles sont, de savoir qui étaient les personnes qu'elles ont perdues. Et voilà, ça a été aussi l'axe conducteur qui nous a rassurés un peu plus tard dans la construction du film.
Ouais, c'est ça, à partir de leurs histoires et pour arriver progressivement à leur combat, comprendre leur combat, ça veut dire aussi parfois des choses. Il y a des choses qui nous ont interrogées, des choses qu'elles peuvent défendre, qu'elles peuvent porter. Mais c'était en fait donner la parole aux concernés et une parole qui a le temps de se développer, voilà, sur une heure cinq de film, quoi.
Ouais, c'est leur offrir le temps du récit et humaniser ces faits divers qui passent à la va-vite dans les médias mainstream. Et j'aimerais bien faire une pause. Après, on revient sur le film, si vous voulez bien. Est-ce que vous proposez un morceau de musique ou un extrait du film? Qu'est-ce qu'on lance?
Moi, je vous proposerais bien une petite séquence du film qui a été réalisée avec une rappeuse de Marseille qui s'appelle Lance Kinamek, qu'on remercie beaucoup pour cette participation. Et voilà, on peut en parler après, mais donc c'est une séquence du film jusqu'à notre dernier souffle avec Lance Kinamek.
L'encre coule sur le papier, les journaux conservent le même en tête, sur les gros titres toujours les mêmes, pendant que la police falsifie l'enquête. Va faire un tour en dehors de tes clivages, dans la rue c'est la guerre, la police tue pendant que t'admires le paysage. Ton politique a la narine pleine, tu critiques ceux qui crient aha. T'attends que Marine vienne et discrimine Black Blanc Juif Arabe. Tu juges jusqu'à l'origine, mais t'en oublies les tiennes. Tu glorifies la France ou Pétain pendant que ces crétins se revendiquent RN. Pour régner, tu divises, mets des visages sur des cibles, tire sur les civils, sinon s'entretue pas si vite. T'es la main gantée, le flingue qui va hanter ce gamin, parce que son grand-père ne verra pas le matin, ni son voisin rentrer. C'est la balle qui fauche un môme, les larmes d'une pauvre daronne, la drogue dans une sacoche à laquelle les costards s'accrochent. Alors ça fait monter les enchères et tu glorifies les flics, ceux qui battent en retraite si la victime n'est pas de la bonne ethnie. On se fait justice par nous-mêmes, on n'attend pas que le marteau résonne, on se soutient, on s'entraide pendant que tu politises les morts. Ce n'est pas un sombre décor, c'est nos halls, nos ruelles, où la police assassine et où s'entretuent nos frères. On ne ferme pas les yeux, on tient et on se relève. On remet en question le système, on anticipe et lutte toujours le poing en l'air. Ce ne sont plus des ombres, on les grave sur les murs. C'est Ryan, c'est Sarah, c'est Redouane, Kaïs, c'est Sabrine, c'est Hugo, c'est Zied, c'est Bouna, c'est Naël, c'est Adama, c'est Ibrahim, Mohamed, Abdelkarim, Eyman, Eji, Nathaniel, Mehdi, Jalil, Virgile. C'est pas des putains de chiffres.
Alors juste pour dire que justement cette séquence, elle est aussi intéressante parce que dans son texte, Lance Kinamek évoque les victimes d'assassinats à Marseille. Donc sous fond de crimes organisés, mais aussi d'autres victimes, entre autres Zied et Bouna, Adama et tout ça. Et nous, voilà, c'était aussi une réflexion qu'on a eue tout au long de la préparation de ce film. C'était qu'est-ce qui faisait qu'il y avait aussi une sorte de, pas de fissure, mais que les combats contre les violences policières, les combats contre les assassinats, il y avait vraiment chacun bossait de son côté. Et ça a été des discussions qu'on a eues avec nos personnages, qu'on a eues avec d'autres collectifs. Et voilà, c'est toujours une interrogation qu'on a, c'est qu'on a l'impression que ces combats n'arrivent pas à se rejoindre. Et donc ce texte, voilà, a abordé ça, parce que pour moi, en tout cas, et peut-être même avec Étienne, on avait cette réflexion-là, c'est les victimes sont toujours un peu les mêmes profils de personnes, quoi, en fait. Et voilà. Et ça, c'était quelque chose qu'on aimerait bien ouvrir comme débat lors de projections ou d'autres événements.
Ok. Alors, moi, j'aimerais venir sur nos invités. Il y a eu une tentative d'inviter les protagonistes du film documentaire. Elles n'étaient pas disponibles. On leur passe un grand bonjour. Et voilà. On espère que la prochaine fois que vous viendrez sur Radio Galère, qu'elles soient présentes pour parler à partir de leur propre vécu. Et alors moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que le film met en avant des parcours de trois personnes. Et comment est-ce que vous avez construit la relation avec ces personnes pour en faire un film? Et comment est-ce que le film, il a été accompagné? Est-ce que ça a été un film où ça a été, il y a eu un aller-retour avec ces personnes-là en question? Ou est-ce que ce film a été réalisé puis ensuite vous leur avez donné à voir, et quel retour vous avez eu à travers tout ce travail là en fait?
Et ben le début de la relation, ça a été plutôt de justement s'attacher à leur témoignage et ce qui est arrivé à leurs proches, et progressivement, ce qu'on disait tout à l'heure, aller vers leur combat Et au fur et à mesure de la relation, bah forcément, on a discuté de leur combat, on a évoqué ces questions-là, notamment ce que vient d'évoquer Mickaël, pourquoi ça fait pas de lien avec d'autres combats qui défendent aussi des personnes qui sont décédées. Et donc dans la fabrication du film, alors ça s'est fait en plusieurs étapes, mais elles savaient où on allait. Après, elles n'ont pas regardé le montage. Elles n'étaient pas avec nous en salle de montage. Et nous, l'idée c'était quand même de montrer leur combat, de donner leur parole, mais avec notre vision, avec notre regard. Et de le faire de manière subtile. Donc par exemple, là, le texte de Lansky Namek, ça permet de faire ce lien-là qui nous a beaucoup interrogés. Il y a eu une autre séquence avec une personne de la Ligue des Droits de l'Homme. Enfin voilà, c'était aussi de faire des rencontres dans le film, de rencontrer d'autres gens, de les faire discuter avec d'autres personnes qui étaient plus ou moins en lien avec leur combat.
Et tout à l'heure, Yeter, tu parlais du temps, et ça a été aussi une notion très importante. Et c'est vrai qu'au début de notre démarche et du travail qu'on a fait avec le collectif des familles, je pense qu'elles se disaient, vu qu'elles avaient l'habitude de médias instantanés, qu'elles se sont dit, bon voilà, ils vont tourner 2-3 séquences et ok, c'est bouclé. Et en fait, voilà, il y a eu le temps de se calibrer chacun de notre côté, nous et le collectif des familles, pour qu'elles comprennent que c'est un truc sur le long terme aussi, et que nous, l'idée, c'était de passer du temps avec elles. Et entre autres, on est parti aussi en Italie quand elles sont parties rencontrer des collectifs anti-mafia là-bas, où là, on a pris le temps aussi avec elles, et où on a pris le temps aussi de pas parler que de des assassinats. C'était intéressant de savoir c'était quoi leur vie, d'où elles venaient, et qu'est-ce qui se passait aussi entre elles. Et des fois, c'est de la déconnade, et des fois... ça part dans tous les sens, mais ça c'était important. Puis voilà, on aimait bien partir dans tous les sens avec elle aussi, mais il y avait besoin de prendre le temps en tout cas pour ça, quoi.
Et ça c'est fondamental, parce que elles sont confrontées à la mort tout le temps, que ça soit à cause de ce qu'elles ont vécu ou à cause des autres familles qu'elles aident. Et donc au bout d'un moment, elles sont obligées de prendre du recul, comme un soignant prend du recul sur les horreurs qu'il peut voir passer à l'hôpital. Elles prennent du recul aussi sur ça, et elles arrivent c'est pas en rigoler, mais voilà, à dédramatiser, pour en tout cas c'est leur force aussi. Enfin, il y a des moments dans le film où on passe du rire aux larmes parce que c'est elles, quoi. Et ça, c'était important d'avoir ce temps là notamment, ça s'est fait en Italie, mais d'avoir ce temps là pour comprendre leur rapport à la mort, en fait.
Ouais, il y a de ça, mais il y a aussi le côté émotionnel de ces personnes, mais il y a aussi le côté pragmatique et concret de la mise en lutte pour dénoncer ces assassinats, ces meurtres sur fond de narcotrafic, quand même, faut dire ce qui est. Et puis aussi, ce film met aussi en arrière-fond la question de la justice. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'éléments sur la question du narcotrafic qui, justement, a un arrière-fond de ces luttes-là? Qu'est-ce qui en ressort à travers les témoignages, et qu'est-ce qui en est dit
Du coup, là, on va te dire que c'est pas trop notre propos à nous. Et on a voulu vraiment lâcher, en tout cas, cet axe-là. Après, sur la justice, c'est long. C'est que chaque affaire, les familles demandent à ce que ça soit réglé assez vite, demandent à avoir accès aux procédures, demande à rencontrer un juge d'instruction, mais ça prend énormément de temps. Justement, là, par rapport à ça, on a imaginé une séquence où on a réalisé une séquence avec une organisation d'un forum justice où tout ça est expliqué aux familles. Tout ça a été expliqué aux familles, toute la procédure, le temps, et le film commence un peu par ce constat-là. Au niveau de la justice, ça peut prendre entre 2 ans et 10 ans, voire plus, quoi. Et en fait, voilà, ce constat-là du temps de la justice, nous, on n'a pas voulu le prendre en compte. C'était plutôt de la considération, en fait, alors aussi de la justice, mais d'une globalité de la société, de ce sujet, en fait.
C'est leur revendication première. C'est ce pourquoi est né ce collectif, c'est demander la justice. D'abord, chacune, on veut que les assassins de notre proche soient jugés, qu'il y ait un procès, qu'on ne soit pas des victimes oubliées. Mais nous, on ne s'est pas attaché forcément à montrer leurs revendications, parce que ça, elles ont su le faire en s'imposant dans le paysage médiatique, en étant présentes dans les médias. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'était comment elles se mobilisaient, et avec peu de moyens, avec des bouts de ficelle, elles arrivaient à essayer de, enfin, elles essayaient de mobiliser les gens autour de cette question-là.
Et il faut savoir qu'elles ont rencontré... Alors je sais plus si c'est différent ou si c'était que du Pont-Moretti sur notre période de tournage, mais en tout cas les ministres de la Justice, garde des Sceaux, qui ont fait des annonces, mais les annonces par exemple d'avoir un peu de rajouter des magistrats ou tout ça, c'était parce que déjà dans la région ça partait de loin, il manquait déjà beaucoup de gens en fait. Donc ça aussi leur revendication a aussi dévoiler des manques qu'il y avait ici au niveau de la justice.
Et ces familles et ce collectif, est-ce qu'il est suivi par des structures associatives ou des politiques? Est-ce qu'il y a un réel accompagnement? Parce que c'est quand même des familles touchées par une histoire qui est quand même de l'ordre du trauma. Et est-ce qu'il y a une prise en compte dans la revendication, comme vous l'avez expliqué, est-ce qu'il y a aussi ce besoin d'accompagnement, parce que c'est quand même des vies brisées, des familles brisées, fatiguées, c'est toute une épreuve, c'est tout plein d'obstacles en même temps. Comment est-ce que vous avez eu ces retours de leur part?
Oui, en tout cas, c'est une des revendications. Une autre revendication essentielle, c'est le soutien psychologique automatique pour les familles qui ont vécu ces drames. Et ça, qui n'était pas appliqué à la tête du client. Enfin, on ne sait pas trop comment ça fonctionnait, en fait. Quelques-unes avaient accès à ça et d'autres pas du tout, quoi. Autre revendication est le relogement des familles. Il y a encore des familles qui habitent dans l'endroit où il y a les assassins de leurs proches. Voilà, je ne sais pas si tu vois autre chose.
Non. Oui, après, dans le rapport, tu disais, dans le rapport, enfin, l'accompagnement, elle travaille avec différentes personnalités, mais elles ne sont pas... Elle travaille avec différentes personnalités, des élus, différentes personnalités politiques. Après... Elle revendique justement ne pas s'engager dans tel ou tel parti, même si ce qu'elles font est fondamentalement politique, hein, puisqu'elles font une action associative, donc forcément c'est de la politique.
Et est-ce que vous avez eu, vous les avez rencontrés et vous les avez suivis sur un certain nombre de mois? Ce film a été fini et réalisé en 2025. Est-ce que vous avez vu une évolution dans toute cette durée de réalisation du film?
Alors déjà en elle-même, dans leur rapport avec rien qu'avec la avec nous, forcément il y a une évolution, puisqu'on est passé de presque inconnu à on est devenu amis. Y a Attika dans le film qui était peut-être la plus discrète des trois, Karima et Laetitia on les a plus vus dans les médias, Attika un peu moins. Au fur et à mesure on a vu que elle s'est ouverte, que ça soit avec nous ou même que ça soit auprès des médias, parce que elle s'est sentie qu'il était nécessaire de prendre la parole et de pas se laisser voler la parole justement par d'autres personnes qui vont parler de ces assassinats-là. Donc il y a une évolution là-dessus dans leur comportement.
Après, une évolution, on va dire, dans le. Oui, une évolution aussi sur le fait voilà, qu'elles se sont, avant le collectif des familles et d'autres associations qui parlent de ça, on n'entendait pas les familles dans ce genre de cas. Quand il y avait un assassinat, les familles n'étaient pas présentes. On
C'est
entendait
vrai.
les policiers, on parlait souvent de l'assassin, en tout cas de son profil, alors, la victime très peu ou alors pour la culpabiliser et les familles jamais. Donc elles permettent de faire, elles ont réussi quand même ça à s'imposer, même si ça reste, elles n'ont pas révolutionné le traitement médiatique de tout ça, hein, et ça reste dans des temps très courts, et voilà, mais ça c'est une évolution. Je pense que voilà, elle...
Après, moi, ce que j'ai vu comme évolution, c'est leur fatigue. Elles sont fatiguées, elles sont pas beaucoup soutenues, et donc voilà, c'est compliqué. Elles ont des vies à gérer, elles ont des familles, et là-dessus, ouais, c'est voilà, c'est dur pour elles en fait. Et très peu aussi, justement pour la justice, très peu pour l'instant d'avancée de leur dossier. Et ça aussi, ça pèse. Ça pèse beaucoup.
Oui, ça pèse beaucoup sur le deuil aussi. Sur le deuil, je pense que c'est important de se dire que la justice, elle doit accompagner ce deuil. Et vous avez filmé ces personnes dans différentes situations, dans différentes lieux, dans différents lieux, pardon. Est-ce que vous pourriez préciser, parce qu'il me semble que vous êtes aussi sorti du Marseille pour. Est-ce que vous pouvez raconter un peu le parcours géographique de ce film et de la raison de pourquoi est-ce que c'était nécessaire de se déplacer ou pas?
Alors, la plupart du film, il est, elle se, enfin, la plupart des scènes se déroulent à Marseille. Il y a quand même une séquence en Italie, Michael le disait tout à l'heure, où on les a suivis, puisqu'elle partait avec d'autres associations, notamment des collectifs corses, pour rencontrer des associations de victimes italiennes, pour s'inspirer de ce qui est fait là-bas, c'est-à-dire de la législation italienne notamment, et puis juste rencontrer des familles qui sont dans leur situation. D'ailleurs, les noms, enfin certains noms des victimes françaises, marseillaises ou corses, ont été lus en Italie, parce qu'en Italie, une mémoire des victimes qui est beaucoup plus présente qu'en France, c'est-à-dire qu'on lit les noms des victimes et le nom des proches des femmes qu'on a suivies, qu'on a filmées, ont été lus en Italie. Donc ça, c'était un moment assez émouvant.
Il y a des rencontres avec des repentis de la mafia, des tueurs ou des qui étaient très 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 dans l'émotion en fait. C'était compliqué pour certaines de se retrouver en face de quelqu'un qui avait ôté la vie. On a aussi visité des lieux réquisitionnés par la justice qui appartenaient à la mafia et qui ont été réhabilités en lieux sociaux, que ce soit des restos, on a été dans une coopérative de mozzarella, voilà, il y a plein d'initiatives en fait qui sont assez intéressantes à s'inspirer. Après, bon, il y a des différences hein, entre l'Italie et la France, on peut pas tout comparer, mais en tout cas, il y a des idées à prendre et nous on trouvait ça intéressant, comme nos personnages ont adhéré à certains trucs, quoi, qui maintenant, depuis la loi narcotrafic, ont été proposés d'être appliqué en France, mais bon, on va voir qu'est-ce que fait le gouvernement par rapport à ça, quoi.
Ok, et j'aimerais bien lire une citation du film au Vatican dit lors de la préparation d'une manifestation, on n'a pas beaucoup de coups de main, ça devient lourd pour nous parce qu'on a des vies de famille aussi. Ça veut dire que lorsqu'elles organisent une manifestation, elles se retrouvent souvent isolées à faire les choses de leur propre chef sans qu'il y ait de relais. Est-ce que ça exprime le fait que ce collectif, lorsqu'il manifeste, il se retrouve un nombre important ou pas? Comment est-ce que vous l'avez visualisé, vous, de votre côté?
Mais non, elles ont du mal, c'est ce qui ressort dans le film, c'est qu'elles ont du mal en fait à mobiliser autour de cette question-là, parce que cette question-là,
elle est sensible. Nous-mêmes, dans l'écriture du film, à un moment, on s'est posé des questions parce que ces questions-là, elles peuvent être vite récupérées politiquement. Donc elles ont du mal à organiser des démarches et on le montre assez bien dans le film, je crois. C'est-à-dire qu'elles font tout elles-mêmes en mode bénévole avec pas de moyens et ça il y a peut-être un changement qui a lieu depuis la mort de Mehdi Kessassi avec une prise de conscience un peu plus importante à Marseille et dans le reste de la France parce qu'on a vu qu'il y a eu une grosse mobilisation autour de cette affaire-là mais on a vu qu'il y a eu une grosse mobilisation autour de la mort de ce jeune homme et il y a eu d'autres morts après et il n'y a pas eu une telle mobilisation. Donc est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience, est-ce qu'il y aura un avant, un après, est-ce que c'était juste ponctuel, on ne sait pas trop.
Alors j'aimerais juste rappeler aux auditeurs et aux éditrices la mort du jeune Mehdi Kessassi, un jeune Marseillais qui a été tué le 13 novembre, un mois plus tôt, avant la sortie du livre de son grand frère Amine, qui est un militant écologiste, qui justement dénonce la mainmise des narcotrafiquants sur Marseille.
Et du coup, enfin moi je le vois plus en buzz médiatique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça fait la une. Par exemple, il y a eu la marche qu'on a organisée à la Joliette avec le collectif Famille de Victimes et donc le collectif des parents de la Joliette. Le fait que ce soit des habitants et des gens qui n'ont pas perdu directement des proches qui se mettent à l'initiative de cette marche, ça avait matché au niveau médiatique. Un petit peu après, il y a eu une tribune qui a été organisée par le député de l'OGU qui a recueilli énormément de signatures de parlementaires et d'autres associations collectives. Voilà, il y a des petits buzz comme ça. Donc Mehdi Kessassi, c'est clair que ça a été hyper couvert et on en parlait tout à l'heure avec Étienne. C'est aussi qu'on a parlé de la victime, de ce qu'il faisait, de ce qu'il voulait être. Il y a eu un changement c'est vrai que moi je me suis dit, ça change, on va passer à une autre étape. Mais deux, trois jours après, on se retrouve à la même façon de traiter ces affaires et aussi l'intérêt de l'opinion publique redescend d'un coup. Donc on ne sait pas trop quoi en penser en fait. Quoi. Et après, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il y a des échéances électorales qui fait qu'aussi, à un moment, il y a des gens qui vont se servir de ce sujet-là, qui vont draguer
ces collectifs,
les familles
qui portent ces questions de narcotrafic à Marseille.
On va voir ce qu'ils en font.
D'assassinat. Malheureusement, la politique en fait son affaire. Alors, moi j'aimerais bien qu'on passe un extrait d'une émission à l'époque où il y avait Étienne dans Tirons la chasse, paix à son âme. Où il y avait différents invités sur ces questions d'assassinat. Est-ce que tu peux préciser quels étaient les collectifs ?
Donc, ça s'était déroulé le courant mai.
Et c'est une scène qui apparaît dans le film, on est d'accord ?
Voilà, c'est une séquence qu'on a mis dans le film. Mais moi, j'avais pas encore. Je filmais, mais j'avais pas encore l'idée de faire un film.
C'était en mai 2023.
Voilà. Et alors pour cette séquence est intéressante. Donc on était à Radio Galère avec donc le collectif des familles de victimes, le collectif des parents et habitants de la Joliette. Et donc on discutait avec Étienne et Yamine de la marche qui avait été réalisée donc le 3 mai. Et donc voilà, on avait échangé, c'était intéressant. Et surtout que Benoît Payan qui nous a rejoint à la fin de la marche, pas au début. Et a organisé une minute de silence au conseil municipal. Et ça, c'était la première fois que ça se faisait. Donc on s'est dit, il y a quelque chose qui prend considération. Donc c'est un peu de ça qu'on parlait aussi lors de cette émission. Et voilà, juste pour la petite anecdote, c'est que en sortant de l'émission, on reçoit un, je sais plus si Laetitia ou Attica qui reçoit un message pour dire que un des jeunes qui était qui avait été fusillé à la Joliette, il était encore à l'hosto et entre la vie et la mort, et il était décédé là. Voilà.
Ok. Alors on passe le son et puis on revient sur Radio Galère.
Il y a Michael qui n'a pas encore pris la parole, il s'est présenté.
Je fais aussi partie du collectif des parents et habitants de la Joliette.
Et d'ailleurs, tu filmes aujourd'hui.
Ouais. Là, c'est vrai qu'à un moment, moi j'ai vu le collectif des familles dans les médias, j'ai tourné la tête aussi à un moment, et quand c'est arrivé vraiment à la Joliette, c'est là où je me suis dit, mais merde en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait Marseille, comment on peut se recouper? Comment on peut se dire qu'il y a, il y a des endroits à Marseille où ça peut se faire, et nous on peut vivre tranquille de ce côté-là.
Il y avait certaines proches des familles de victimes qui se demandaient, ah ben on va faire une énième marche, encore une fois. Donc c'est vrai que c'est à la fois utile et nécessaire, et à la fois on a l'impression que ça se répète dans une forme de rengaine funeste.
On voit quand même qu'il y a quand même une prise de conscience qui a été faite ces dernières semaines, que ce soit au niveau des habitants, que ce soit au niveau même des élus, hein, parce qu'il faut quand même souligner que M. Payan, la prise de parole là, qu'il a prise pour les fusillades à Marseille, c'est la première fois qu'un maire en parle officiellement lors d'un conseil municipal. Il y a quand même des choses qui ont été notifiées noir sur blanc. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui a eu lieu. J'espère que ça va perdurer sur du long terme. Voilà. Parce qu'après, c'est bien d'en parler, mais il faut
agir.
Il faut acter, quoi.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des cochons.
Il y avait des vaches et des cochons.
À l'endroit où se trouve nos maisons.
À l'endroit où se trouve.
Nous font monter dans la fourrure.
retour sur Radio Galère 88.4 et nous sommes toujours en présence de Mickey Jans et de Étienne Bonneau autour du film Le Dernier Souffle, Jusqu'à notre dernier souffle, pardon, un film qui a été réalisé, qui est sorti en 2025, pardon, et qui commence à peine et tout doucement à être projeté dans différents lieux, dans différents cinémas, ici et ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous dire, Étienne ou Mickey, depuis que le film est sorti, dans combien de lieux a été projeté ce film, et aussi nous parler un peu du retour du public, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui vous a frappé à travers le retour des spectateurs et des spectatrices?
Alors il y a eu une avant-première au ZEF du Merlan qui était sur invitation pour les personnes qui avaient contribué au film, parce qu'on avait fait un appel aux dons pour l'étalonnage, le mixage, enfin pour pouvoir finir le film. Et ensuite il y a eu deux projections, une au cinéma Le Gyptis à la Belle de Mai, une au Polygone Étoilé à la Joliette. Et il y avait quand même pas mal de monde et pas mal, enfin des débats surtout très intéressants, puisque c'est comme ça pour le moment que le film fait sa vie, c'est en projection de débat avec le collectif des familles de victimes qui sont présentes à la fin de la projection pour échanger, pour répondre aux différentes interrogations ou simplement pour discuter. Et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. À un moment, on évoque la légalisation du cannabis. Certaines dans le collectif revendiquent ça. Pour d'autres, c'est plus compliqué. En tout cas, il y a ce débat-là qui peut naître sur justement comment on montre la mort, en tout cas, comment on montre ces assassinats-là dans les médias, enfin la représentation médiatique. La notion de victime innocente aussi, alors ça c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est-à-dire que le collectif des familles de victimes ne fait pas la distinction entre les victimes, ce collectif accompagne toutes les familles de victimes, quelles qu'elles soient, que leurs proches aient été plus ou moins impliqués dans le trafic de stupéfiants ou non. Elles partent du constat, du postulat que personne ne mérite de mourir, la peine de mort n'existe pas, et qu'ils aient été impliqués de près ou de loin dans le trafic de stupéfiants, ça ne justifie pas que quelqu'un soit mort. Donc elle porte ça.
Elle lutte en fait contre cette banalisation du meurtre justifié autour de ces histoires de drogue. Et puis la légalisation de la drogue, c'est aussi dire à un moment donné que si on légalise, je précise, hein, il y a carrément des spécialistes qui le disent haut et fort, hein, que si on légalisait, ben ça ferait tomber la mafia comme un château de sable en fait. C'est ce qui est revendiqué et qui permettrait en fait de régler ces histoires d'assassinats.
Et d'organiser de la prévention, et d'organiser des soins pour les gens qui sont malades. Enfin oui, c'est... Après, est-ce qu'on dit une vérité en disant ça? Je ne sais pas. Ce qui nous pose problème, c'est que c'est limite tabou. C'est qu'il n'y a quasiment pas d'espace pour discuter de ça en fait.
Il y a encore une chape de plomb, on va dire, morale sur ce sujet-là, et on ne peut pas en parler. Alors que rien que déjà d'en discuter, il y a Mohamed Ben Sada qui a fait un livre qui s'appelle Legalize It, qui parle de ça, qui pose les enjeux qui sont liés à la légalisation, qui pourrait être une légalisation sociale. Après, qu'on soit d'accord ou pas, mais au moins qu'on s'empare de ça, par exemple en s'appuyant sur cet ouvrage-là, pour pouvoir en discuter, en débattre. Ça serait déjà un plus.
Et en gros, ce serait un débat à mettre sur la place publique et qui devrait prendre de l'ampleur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez fait le film. Mmh.
Exactement.
Du coup, ce film-là, il existe sur l'espace public à travers vos projections. Et ce qui ressort encore par rapport au public, aux interventions qui vous a marqué, qui vous aurait marqué, c'est quoi par exemple?
Il y a eu...
Parce que je précise, hein, vous avez eu le retour de la famille avant d'en faire une projection, de le lâcher à la société dans son ensemble. Les retours des familles, une fois que le film a été réalisé, ça aussi c'est un moment avant le démarrage du film et de sa diffusion qui a été un moment consacré pour ces personnes-là, pour ces familles-là. Comment est-ce que ça a été validé entre guillemets par ces personnes-là? Vous avez eu besoin de le valider avant de le projeter, c'est pourquoi cette démarche-là? C'est pas souvent que les réalisateurs le font d'ailleurs.
Alors moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi. Si je peux le faire, je le fais. Mais alors c'est toujours compliqué quand on a passé plus de 2 ans à suivre quelqu'un qui te voit beaucoup avec la caméra pointée sur elle et qui regarde un film d'une heure, 1h05. Bah à un moment, il se dit ah. Il manque pas mal de choses en fait, quoi. Donc il y a toujours cette frustration et ça c'est normal. Donc on a eu aussi ce retour-là. Et après, il était aussi important parce que ça aborde beaucoup de points de justice, enfin judiciaire. Il était important aussi de pouvoir faire valider ce que peut-être on n'avait pas compris qu'il fallait pas dire ou pas montrer. Et aussi, il y a eu une évolution. De gens qui ne sont pas apparus dans le film, puis après qui sont apparus, puis après qui ne voulaient plus. Et voilà, il a fallu aussi un moment se mettre au clair avec ça, parce que c'est toujours pas évident, en fait, de pouvoir parler du fait qu'on a perdu quelqu'un de sa famille, que son fils ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a eu des trucs en dents de scie un peu, bah oui, ok, je veux bien paraître, après je veux pas, après... Donc voilà, c'était aussi nécessaire pour d'avoir le retour à ce niveau-là aussi. Mmh. Après, au niveau des projections, alors là, au sens, enfin, le public au sens large, il y avait aussi quelque chose que je trouvais qui revenait souvent. C'était un moment, toujours, comment prendre de la distance, en fait, avec ce sujet. Et vu que moi, c'est un peu le point de départ de casser cette distance, je trouvais ça intéressant. C'est toujours la chose de savoir un peu qui est la victime, de savoir est-ce que là, on s'accroche à ce sujet. Et c'est pour ça que pour moi, ça faisait un lien aussi avec les violences policières. C'est-à-dire, si Naël, c'est un petit voyou, on peut se dire qu'en fait, il l'a peut-être bien mérité. On peut avoir moins d'empathie et garder son capital empathie pour autre chose, quoi, en fait. Et je trouve que il y a encore beaucoup ce genre de fonctionnement pour pouvoir se dire c'est pas quelque chose qu'on regarde en face, quoi.
Ouais, c'est tous les préjugés autour de... tous les préjugés autour de ce de ces assassinats et de fonds de narcotrafic, en fait.
Et des publics qui sont, enfin je sais pas, c'est pas le mot public, mais enfin, en tout cas des personnes qui sont victimes. Moi j'ai ce questionnement qui fait que ça concerne quand même beaucoup le même genre de population, en fait.
Ouais, il y a un isolement des
personnes racisées, des personnes de quartiers populaires.
On parle de la classe sociale la plus précaire, enfin en tout cas d'une catégorie sociale.
Qui sont imagées constamment comme des personnes potentiellement coupables. Et donc de réfléchir à l'empathie qu'on va mettre pour, concernant un décès ou... On cogite encore 10 ans à se dire, y a un enfant qui est mort, en fait, est-ce qu'on doit pleurer, est-ce qu'on doit le considérer? Enfin, voilà. C'est encore quelque chose qui me questionne et que je vois pointer des fois dans les débats aussi aux projections.
Ah ouais, la question de la déshumanisation de ces personnes qui sont mortes parce que racisées. Faut dire ce qui est.
C'est ça, racisées, issues de quartiers populaires. C'est d'ailleurs la première phrase que dit Laetitia dans l'extrait que on a passé au tout début. C'est. Parce qu'on habite des quartiers populaires, on tue nos gosses et je sais plus comment elle le formule mot pour mot, mais et tout le monde s'en fout, quoi, en gros.
C'est ça. C'est ça. C'est on s'en fout de nos quartiers populaires, on s'en fout de nos enfants, on n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on le mérite en quelque sorte, ce genre de choses.
Et du coup, l'extrême droite en ce moment, je surfe énormément sur ce genre de propos et d'idées, quoi.
On fait une pause musicale et puis on revient sur les projections futures.
Alors c'est La rue ça fait mal de Kerry James. Et voilà, le tonton, il dit tout depuis des années.
Je ne fais pas semblant. J'ai fait des queues trucs. pas sans gants. Qu'est-ce que tu croyais? Dans mes yeux noirs, qu'est-ce que tu voyais? Ils ont tué mon pote, ils ont brûlé son corps. La souffrance que je porte défie ton hardcore.
Je ne suis pas un gangster de studio. Ses pieds sous terre, tombés de rideau. Violence pyromane, on retrouve des corps sans vie. C'est pas avec des larmes que tu éteins l'incendie.
La rue ça fait mal,
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 la rue ça fait mal, on s'y est habitué, mais ici rien n'est normal.
Mal.
La rue ça fait mal,
je crie dans les larmes,
la rue ça fait mal,
je fais que des drames,
la rue ça fait mal, on s'y est habitué, pourtant rien n'y est normal.
T'écris dans l'encre, j'écris dans les larmes. Tu te vois dans un miroir, je me vois dans une lame. Le cœur trop lourd pour croire au mirage. La tête trop pleine pour la voir dans les nuages. Qu'est-ce que tu croyais? Dans tes yeux noirs, j'ai su ce que je voyais. Ils ont tué ton pote et tu le cherches encore. T'accepteras l'évidence qu'une fois devant son corps.
Je ne suis pas un gangster de studio. Ses pieds sous terre, tombés de rideau. Violence pyromane, on retrouve des corps sans vie. C'est pas avec tes larmes que tu éteins l'incendie.
La rue ça fait mal,
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 la rue ça fait mal, on s'y est habitué, mais ici rien n'est normal.
Mal.
La rue ça fait mal,
je crie dans les larmes,
la rue ça fait mal,
je fais que des drames,
la rue ça fait mal, on s'y est habitué, pourtant rien n'y est normal.
À tous ceux qui ont un pote ou un frère qui s'est fait buter. À toutes les mères qui se sentent comme amputées. À tous les pères qui ne pleurent qu'une fois isolés. Qu'attendent le cimetière meurtri, inconsolé. Élever un gosse pour ensuite l'enterrer. La main sur la crosse, penser quand tu vas tirer. La route fait du charme, tu trouves qu'elle a de l'allure. Le drame c'est que tu confonds le sucre et le cyanure.
La rue ça fait mal,
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 la rue ça fait mal, on s'y est habitué, mais ici rien n'est normal. La rue ça fait mal,
je crie dans les larmes.
La rue ça fait mal,
je fais que des drames.
La rue ça fait mal, on s'y est habitué, pourtant rien n'y est normal. La rue ça fait mal. La rue ça fait mal.
La rue ça fait mal.
À la baisse.
La rue ça fait mal.
Fais ma dé.
Et ouais, et ça n'a pas changé, et ça n'a pas été entendu depuis des années, des décennies. Est-ce que vous pourriez nous dire les futures projections? Là, il va y en avoir une prochainement dans Marseille. Est-ce que vous pourriez donner vos différentes dates et inviter ceux et celles qui nous écoutent à venir assister aux projections?
Alors la prochaine projection est peut-être la dernière à Marseille, en tout cas pour le moment il n'y en a pas d'autres de programmées. C'est le 6 février, vendredi 6 février à 20h30 au cinéma L'Alhambra à Marseille, à l'Estac.
Et il y a une petite bouffée si vous arrivez un peu avant, à partir de 19h je crois, restauration.
Il y a un accueil avec restauration, buvette.
Et après la projection, comme pour les autres projections, il y aura un débat avec le collectif des familles et nous.
Et donc vous serez présent avec les personnes du film. Parfait.
Exactement.
Et donc on est en recherche de lieux pour diffuser ce film. Là, on va commencer aussi des interventions dans des établissements scolaires. Et ça aussi, ça nous intéresse. Et surtout le collectif des familles de victimes qui accompagne le film.
Pour faire de la prévention,
exactement,
en fait, c'est
voilà,
important.
Exactement.
Pour sensibiliser les enfants à ce milieu-là et les prévenir de attention, qu'est-ce qui peut vous arriver, c'est ça?
C'est ça.
Ok. Et alors, ce film a été réalisé par vous deux, certes, mais en soutien avec l'association Nawak. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur l'association Nawak avant de se quitter?
Bah, tu connais.
Oui, ouais. C'est une association qui existe depuis 2004 à Marseille, qui a fait, qui a été très présent à l'époque et qui a fait une grosse pause parce que tu as dû déménager et revenir à Marseille. Et tu reviens avec un film par le biais de l'association Nawak.
Voilà, l'association collective Nawak, donc c'est une asso ouais, qui a un peu plus de 20 ans, qui n'est pas subventionnée, qui a très peu réussi à gagner de l'argent. Donc là, c'est le premier projet où on a mis en place une cagnotte en ligne sur Eloasso, ce qui nous a permis, comme disait Étienne, de financer la post-production pour avoir une petite qualité quand même. Et voilà. Et comme je disais aussi tout à l'heure, cet asso, bah, on a un peu une accroche sur les luttes et les personnes qui luttent surtout. Et voilà, c'est un peu les projets qui nous intéressent. Et on essaye aussi de faire un peu des transmissions de savoir. Là, on est plutôt sur l'audiovisuel. Et voilà. Et donc, il y a une cagnotte en ligne Eloasso jusqu'à votre dernier souffle. Si vous voulez soutenir le projet et l'association, avec plaisir.
Jusqu'à notre dernier souffle sur Eloasso et Collectif Nawak avec un K à collectif.
Super, merci beaucoup Étienne, merci beaucoup Mickey d'être venu dans le studio Radio Galère. Et n'oubliez pas de soutenir ce film à travers vos noms aussi et votre présence lors des projections. Donc le 6 février, cinéma L'Alhambra à 20h30 pour la projection du film en présence du collectif et des réalisateurs de ce film, donc Étienne Bonneau et Michael Jans.
Est-ce qu'on peut faire un petit big up, enfin, des petits big up?
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
Alors, grand merci à donc Lanskinamek que vous avez écouté, à Spinnaker qui a fait la création musicale, à la compagnie Hillel, Marina Gomez, Arsène Magnard, Camille Détonner qui participe à ce projet, mais d'une façon que vous verrez dans le film, à Crazy Ox Beat aussi qui est un compositeur sur Cannes, et c'est la musique que vous avez entendue dans la bande-annonce du début. À Tom et Primitivi, à François Charrier et Eric Petit aussi qui ont fait le mixage, voilà.
Et bien sûr au collectif de famille, au collectif des familles.
Merci beaucoup et je vous laisse avec un dernier son qui est extrait du film Jusqu'à notre dernier souffle. Au revoir Étienne, au revoir Mickey.
Merci Radio Galère, au revoir.
Je finis par voir un magistrat en 2023 qui me garantit qu'il classera jamais ce dossier, qui va lui donner une chance. Donc je suis encore optimiste. Mon frère assassiné 4 avril 2016, et je vois un juge pour la première fois en novembre 2023. Elle décide qu'elle va rendre une ordonnance de non-lieu. Et là, je suis furieuse, mais profondément furieuse. Et je me dis, mais on est des victimes sacrifiées pour lesquelles vous n'avez même pas jeté un regard, en fait. Vous ne vous intéressez pas à nous, vous disiez qu'on était victimes de règlements de compte qui réglaient leurs affaires entre eux. Moi, c'est pas comme ça que je voyais la justice. Aujourd'hui, je suis déterminée aussi à partager ma connaissance de ce que je connais sur le droit, sur le fonctionnement de la justice, pour que les autres familles, ils agissent avant, en fait.
Un morceau de Médine qui s'appelle L'amour. Bonne écoute sur Radio Galère 88.4 à Marseille.
Si je shoot en bleu, tout ça va sûrement finir en émeute. Les publics rentreront chez eux en se disant on est neutre. Tout ça m'émeut, mais j'ai choisi de partir sans faire le haineux. Car on ne coupe pas la ficelle tant qu'on peut défaire les nœuds. Mesdames, messieurs, les théâtreux, spectatrices et spectateurs, ce sera jamais nous contre eux. Les mauvaises herbes sont des fleurs, on n'a pas besoin de thérapeute. Un comédie club dans le cœur, si on écrivait la N2, ce serait la cité de la peur. Nos vies des films d'horreur quand on les regarde en gros plan. En dézoomant, des films d'amour et des bromances. J'ai vu mon reflet dans leurs insignes. J'ai su que le vilain petit canard était un signe.
C'est nous la France périphérique, toujours au centre du débat. On rend le pays féerique avec les centres de Demba. Quand on fait la une de l'équipe, on est des fiertés nationales. Mais dans les contrôles de routine, on est des ramasseurs de balles. Mais tu veux savoir c'est quoi le comble? C'est que ce soir on fait ça le comble. Mais que demain, face aux gendarmes, ça peut vite tourner au drame. Parce que quand un Français est con, on dit que c'est un sale con. Mais quand un Arabe joue au con, on dit que c'est un sale Arabe. Et lorsqu'un flic tue un noir, les racistes appellent ça du sport. Et quand un noir pousse un keuf, ils parlent tous d'animal féroce, d'indigène, hanté en Lacoste. Ils volent aux Français leur travail. La violence a plusieurs visages, celle d'un flingue ou celle d'une cravate. Frère, faut qu'on tempère, tourner le dos à l'ouragan ne nous sauvera pas de la tempête. Tant qu'on ne videra pas nos placards de nos squelettes, tant qu'au lieu de mener des enquêtes, on partira mener des quêtes. Je prendrai pas de pincettes, encore moins de pense-bête. On ne guérit pas du Tiex, même sous opération place nette. Tant qu'on ne renversera pas la pyramide, tant qu'on ne regarde la banlieue que par la lucarne des vrilles, tant qu'ils enjamberont les corps avec des dossiers sous le bras, tant qu'on aura des nœuds au vent quand on voit l'origine du coupable, tant qu'on étalera le casier d'un cadavre encore chaud, tant qu'on n'arrêtera pas de voir comme un spectacle les talk shows, tant qu'il y aura des mères qui ferment le couvercle du cercueil, tant qu'il y aura des pères en deuil qui perdent un œil dans les immeubles à cause d'un tireur, d'un bon tireur sur un ancien tirailleur, un militaire devenu ferrailleur, devenu de la chair à bailleur. Tant qu'ils s'en prendront au raisonneur, avant de s'en prendre au raisonnement, on n'ouvre pas la porte du vivre ensemble avec une clé d'étranglement. On n'est pas le pays des lumières avec un taser électrique et cassé du fonctionnaire. Et ben ça n'a rien d'érectile. On perd le nord, on perd le fil. On crée pas de lien, on racialise. On se voit plus qu'en noir et blanc comme dans le film de Kassovitz. On nage en pleine cassosserie. Comment expliquer aux kids que la patte patrouille dans la vraie vie tire sur la carrosserie? C'est l'histoire d'une société qui chute à l'horizontale. L'important c'est le parachute, quel que soit l'atterrissage. J'ai mis la culture de la rue dans la France et son pactage. Car pour pouvoir former la lune, faut que tous les quartiers se rejoignent. On chanterait presque la Marseillaise avec Jules, avec Ayam. Le bruit des copes de supporters, ça étouffe toutes les calaches. On aime la garde républicaine quand elle chante avec Aya. On est les gardiens de la paix quand ils shootent les canaques, quand ils compressent les thorax de Cédric et d'Adama. Que sans les images des dashcam, on ne saurait rien des causes du drame. Alors on se fout de leur morale, des humanistes à deux balles. On s'aimera jusqu'à ce que la prochaine polémique nous sépare. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits. Que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise. Et que le chef de police est sûrement un chef de famille. Et que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre. Qu'oublié, un crime est un crime. De Beltrama ou Sekine, on va tous finir par ce kill. Alors j'ai plus qu'une chose à dire: l'amour.